Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Si parfois les films sont longs, c'est parce que le sujet est compliqué. Ce qui est vrai pour l'un des invités de Michel Simon en mars 2014 est vrai pour l'autre invité. Tous deux sont, entre autres activités artistiques, des documentaristes. Des documentaristes qui veulent travailler sans idées préconçues et ne souhaitent pas d'explications idéologiques en conclusion à leur film. La préparation, le tournage, les heures et les heures de rush, le travail de montage, Marcel Ophuls et Frédéric Wiesmann confrontaient leur parcours artistique. Retour sur le procès Barbie et le documentaire Hôtel Terminus, Close Barbie, sa vie et son temps, sur le chagrin et la pitié, évocation du documentariste Robert Flaherty, état des lieux du racisme en Amérique. Cette rencontre sera suivie d'un entretien avec la directrice de la Cinémathèque de Toulouse à l'occasion du 50e anniversaire de cette cinémathèque. Projection privée par Michel Simon, première diffusion sur France Culture le 1er mars 2014.
Projection privée. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre au sommet avec Marcel Ophuls pour la sortie de ses mémoires, Mémoires d'un fils à papa aux éditions Calman Levy, et Frédéric Wiesmann pour la sortie de son nouveau film, son 40e film, At Berkeley, sur la grande université californienne. J'ai pensé à cette rencontre d'abord parce que je sais que ce sont deux cinéastes qui s'apprécient beaucoup, et puis j'ai lu dans les mémoires de Marcel Ophuls, je n'aime pas tellement les documentaires des autres, et surtout pas quand ils sont deux fois plus longs que les miens. Alors, effectivement...
Il n'aime pas mes films.
Si, sauf justement, il aime beaucoup vos films, vous faites une exception. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part, d'ailleurs, dans un autre texte qu'il avait écrit sur vous, que deux de vos films, de ses films préférés de vous, c'était en particulier Near Death, qui fait 6 heures, qui est peut-être votre plus long film.
Oui, donc, je me souviens.
Ça dément un peu ce qu'il disait. Oui, Marcel Ophuls, vos films peuvent faire facilement 4 heures, 4 heures et demie. Là, Berkeley, c'est 4 heures.
Michel, je crois être co-inventeur des films longs. Enfin, nous en sommes tous les deux des co-inventeurs des films longs. Mais pour moi, le grand cinéma, celui de Max Ophuls, ne tolère pas les films trop longs. Billy Wilder, que j'ai essayé de rencontrer deux fois, une fois quand j'étais nominé à l'Oscar et que je ne l'ai pas eu, et une autre fois, quand je l'ai eu. Il n'aurait jamais venu à l'idée de regarder un documentaire de 4h30.
Mais si, moi, il m'a dit qu'il aimait beaucoup Le Chagrin et la Pitié, alors je ne comprends
qui,
pas très bien.
Qui
Billy Wilder.
Lui-même,
oui.
Vous a dit.
Alors, vous voyez, donc, excusez-moi de vous démentir dès le départ. Mais on sait que c'est un jeu préféré de Marcel Ophuls que de dire du mal de ce qu'il a illustré brillamment.
C'est exact.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la longueur de vos films qui sont magnifiques parce qu'on ne s'ennuie pas une seconde aux 4 heures de Berkeley.
Quand je commence le montage, je n'ai aucune idée quelle soit la longueur. Je crois que j'ai une responsabilité aux gens qui me donnent permission de tourner autour de leur vie. Et souvent, à mon avis en tout cas, les sujets que j'ai choisi à tourner sont des sujets très compliqués.
Des sujets très compliqués.
Oui, et moi je ne veux pas les simplifier parce que...
Écrire 30 pages pour les décideurs décideuses.
Ça, c'est très hollywoodien. On cherche le moyen. Moi, je n'ai aucune idée comment je peux penser d'un public. Moi, je risque de sonner arrogant, mais je crois, moi, je suis le public. Et parce que je ne peux pas anticiper dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quelqu'un en France, en Angleterre, en Suède va voir le film. Je n'ai aucune idée qui ils sont, quel était l'intérêt, l'éducation, la valeur et tout ça. Moi, j'ai assez de difficultés en faisant mes choix et je ne peux pas penser d'un autre. Et pour bon ou mauvais, je fais le film pour moi-même. C'est tout. Et non. Si le film est long, c'est parce que le sujet est compliqué et j'ai essayé de trouver une forme dramatique pour le sujet. C'est tout.
Marcel Ophüls, je pense que c'est un peu la même chose pour vous. Si le chagrin et la pitié ou Memory of Justice font plus de 4 heures, c'est parce que au cours de
parce
votre...
C'est compliqué. Ben oui. Et puis, moi j'ai fait mes devoirs, Fred, entre-temps. Quand est-ce qu'on s'est vu avant, chez Wepler, avant hier soir, je crois.
Répétition. Mais vous n'aimez pas les répétitions, il
va vos documentaires. Ah non, on parlait de tout à fait autre chose. Mais j'ai dit, je voulais qu'il voit America Revisited, que personne n'a vu, bien sûr.
La recherche de mon Amérique, c'est un titre français.
À la recherche de mon Amérique, oui. Et alors, je vais le dire en anglais, hein, sur France Culture, dans At Berkeley... Jeune professeur en political science, à peu près une quinzaine de minutes du début, elle dit, at the end of the day, it has to be about individual liberty.
Finalement, ça doit avoir traité de la liberté individuelle.
Oui. And that individual liberty has to be about individualism.
Et cette liberté individuelle doit concerner l'individualisme.
Ben oui, c'est ce que tu fais, Fred. Et c'est ce que j'essaye de faire.
Mais alors, si on reparle de votre façon de pratiquer votre métier, il y a quelque chose en commun, je crois, c'est que vous n'aimez pas trop, vous le faites un peu, mais trop vous documenter avant d'entreprendre un film.
Non, moi, je fais aucune recherche avant. Par exemple, pour At Berkeley, j'ai passé une demi-journée là-bas et j'ai visité, il y a 10 ans, avant le tournage, j'ai projeté quelques films à Berkeley. Mais pour moi, le tournage, c'est la recherche. Parce que je n'ai aucune idée, même si je fais la recherche, le même événement ne passe pas. Et c'est probablement même pas les mêmes gens. Et moi, pour moi, le modèle pour moi, c'est Las Vegas. Chaque film, c'est un pari. Et j'aime l'idée d'aller de l'endroit et suivre mon grand nez et mes grandes oreilles et mon instinct pour bon ou mal. Et je découvre le film dans la salle de montage. Je ne veux pas commencer avec aucune... des idées préjugées, des explications idéologiques, parce que je n'ai jamais trouvé une explication idéologique qui explique tout ce que je trouve. Et comme ça, j'essaie de tourner beaucoup. Pour Berkeley, c'était 252. Et je découvre les thèmes pas tout de suite, mais après 8-9 mois de montage, après que j'ai monté toutes les séquences, que je peux utiliser et quand je commence à essayer de trouver un ordre, de trouver une structure. C'est à ce moment que je trouve...
Le petit Marcel ne peut pas faire tout ça, malheureusement. Parce que le petit Marcel est obligé, en une semaine pour November Days, 7 jours de suite...
Il faut dire un film sur la chute du mur de Berlin.
Oui, le meilleur documentaire là-dessus, je crois de loin.
C'est vrai.
En 7 jours, il faut traverser toute l'Allemagne, depuis Berlin jusqu'à Flensbourg, où Beate Uhse faisait, qui était dans la Luftwaffe sous Göring, femme charmante d'ailleurs, d'en haut à Flensbourg, et ensuite tout en bas à Leipzig. Alors si je ne fais pas des recherches avant, je n'ai rien devant la caméra. Donc, malheureusement...
Mais il traite des sujets tout à fait différents que le mien.
Bien sûr.
Mais je comprends très bien pourquoi il doit faire la recherche. Mais moi, comme je ne demande rien aux gens et je ne fais pas des interviews, il faut que le film doit arrive de les séquences que je trouve. Ils sont des objets trouvés dans cette ancienne phrase de quelqu'un d'autre.
Mais Marcel,
je les cherche.
Mais Marcel Ophuls, quand vous entreprenez, par exemple, vous étiez en exil avec votre père, évidemment, qui était obligé de partir en Amérique à cause du nazisme en France. D'abord à cause du nazisme en Allemagne, venu en France, et ensuite à cause du nazisme.
Bon, oui.
C'est le destin de beaucoup de Juifs. Mais quand vous avez entrepris ce voyage dans le passé de la France avec le chagrin et la pitié, et parlé d'une époque que vous n'aviez pas vécue, vous partiez aussi sans vraie documentation. Comment le film s'est construit petit à petit? C'est-à-dire, vous avez,
oui, là,
à l'arrivée, il était différent de ce qu'il
beaucoup
était.
Beaucoup de recherches. André Harris, qui est le co-auteur du chagrin et la pitié, il n'y a pas de scénario, il n'y a jamais de scénario, ni Fred, ni chez moi, bien sûr, pour les raisons qu'il a d'ailleurs déjà expliquées. Mais, Michel, pour le chagrin, bien sûr qu'il fallait faire des recherches. Il fallait retrouver à Clermont-Ferrand des résistants, pas des résistantialistes, mais de vrais résistants. Des gens qui n'avaient rien fait du tout, comme la majorité des gens dans toutes les guerres, ne font rien parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils veulent pas prendre les risques. Enfin, il y a des tas de raisons pour ne rien faire, des raisons légitimes. Et c'est moi qui les ai fait, les recherches. C'est pas André. André savait déjà tout. Les Ophuls, tous les trois, quand nous sommes rentrés en France, ça nous préoccupait très peu de savoir ce que les gens avaient fait pendant l'occupation. On n'était pas concernés par le passé, on était concernés par l'avenir. Que Daniel Darrieux, ma chère Daniel Arieux, qui nous écoute peut-être, Michel, qu'elle soit partie dans un train pour l'Allemagne pendant l'occupation. Mais on s'en fiche comme de l'an 40, voyons.
C'est le cas de le dire.
Mais tout le reste est venu comme les choses viennent dans la vie.
Frédéric Wiseman, dans ce film assez extraordinaire qui est Ed Berkeley, est-ce que c'est en faisant ce travail ensuite de sélection des rushs, de choisir ce que vous alliez garder, etc., et pendant le tournage, est-ce que vous étiez conscient à ce point que ce film allait être sur la crise que traverse l'Amérique? Parce que évidemment, c'est un kaléidoscope, c'est une vision panoramique de Berkeley. Il y a des cours magnifiques sur John Donne, le grand poète métaphysicien anglais du XVIIe siècle, ou sur Thoreau, le grand philosophe américain du 19e, il y a tous les aspects financiers, la contestation des jeunes dans les campus, etc. Mais est-ce que vous saviez à ce point que ce qui ressortirait, c'est la crise en Amérique, en particulier le désengagement de l'État par rapport à la période de Roosevelt ou la période de Johnson, je le cite entre parenthèses, président scandaleusement méprisé et qui fut peut-être le plus grand président américain de l'après-guerre. Est-ce que vous étiez conscient de cela, à ce point?
Oui, mais avant que j'ai commencé le tournage, j'ai su qu'il y avait une crise financière, mais pas les dimensions, pas la profondeur. Mais le premier jour de tournage, c'était une réunion de cabinet de chancellerie et ils ont parlé de ça beaucoup et puis j'ai compris, ça c'est quelque chose que je dois suivre. Mais même à cet instant, je n'ai pas su combien le film sera occupé de ça parce que à ce moment, je n'ai aucune idée des autres éléments que je vais trouver. Mais c'est pendant le montage. Moi, je peux faire un film de 8 heures autour de la crise financière, si je veux. Mais je veux que ça devienne un des thèmes principaux, mais pas le seul thème. Et pendant le montage, j'ai essayé de faire un
principe.
Merci, professeur. moi, même après 100 ans en France, je parle très mal le français.
Mais non. C'est un des rares Américains qui parle
point américain.
En début, Fred, quand il parlait mal et qu'il ne voulait pas répondre à des questions, il disait tout simplement, excusez-moi, j'ai pas compris.
Non, ouais, John Ford disait, excusez-moi,
je n'ai jamais fait ça, sauf quand il me demande mes réponses à ces films. Non, la crise financière est devenue un thème principal, mais pas le seul.
Alors, Marcel Offus, ce film a dû vous intéresser particulièrement parce que vous avez été étudiant pendant justement votre exil aux États-Unis. Vous avez été étudiant à un collège qui s'appelle Occidental, dont vous parlez.
On the GI Bill of Rights.
Voilà. Vous avez été aussi étudiant à Berkeley en philosophie. D'ailleurs, vous deviez aimer Berkeley parce que vous aimez aussi Busby Berkeley. Et je pense que Frederick Wiseman aime aussi, puisqu'il a fait un film sur la danse, il aime aussi Busby Berkeley, pas seulement Berkeley.
Absolument.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous a évoqué pour vous, les contrastes avec cette université américaine que vous aviez connue à l'époque? Vous étiez aussi, dans ce film, un peu à la recherche de votre Amérique aussi, dans ce film de Wiseman.
Oui. Souvenir. Je peux raconter une anecdote?
Bien sûr.
Ce sont les anecdotes qui font l'histoire, quand même. Puis il faut qu'elles soient drôles, les anecdotes.
On va voir.
Et il y avait, j'ai fait summer school à Berkeley. Et j'étais avec un copain qui est devenu un très grand physicien, qui était à Occidental, comme beaucoup plus tard, Obama, avant d'aller à Harvard. Il était à Occidental. Il passait certainement 4 fois par jour dans le building de mon meilleur ami à Occidental, Donald F. Lofsgordon. L'immeuble Donald F. Lofsgordon, Obama devait passer au moins 3 fois par jour. Bon, alors, retour à Berkeley. Summer Session, pendant les vacances. Sven Nilsson, devenu un très célèbre physicien, il m'entraîne voir Oppenheimer, l'un des pères de la bombe atomique.
C'est le vrai nom de votre père aussi.
Oui, bien sûr, sauf qu'il a fait légaliser au Sud, il y a très longtemps. Mais j'aurais préféré être le roi du diamant en Afrique du Sud, Oppenheimer. J'aurais préféré être de sa famille parce que je serais très riche. Michel.
Bon. Étant donné le nombre de pages que vous consacrez à votre père dans ce livre et l'admiration que vous avez pour lui, je ne suis pas sûr que vous auriez préféré avoir comme père un roi du diamant en Afrique du Sud. Honnêtement, je ne crois pas.
Pas comme père.
Ah oui. Alors, non. Faut savoir, oui, mais il faut.
Non, de la famille.
Comme un mot.
Hein? Oui, donc, Robert Oppenheimer, qui était tout bronzé, très sportif, son cours commence à Berkeley. Et il prend une craie, et sur les trois tableaux noirs, je comprenais strictement rien. Sur les trois tableaux noirs, il écrit des choses. Et alors tout le monde, Sven et les autres, prenaient des notes. Moi, je le regardais, je l'écoutais. De temps en temps, il faisait une blague mathématique. Alors on était censé en rire. Et le seul qui en riait dans la classe, c'était Bibi, parce que les autres avaient leur nez plongé dans les notes. Et alors, à la fin, Sven dit, allez, on se dit en Marcel, parce que le professeur Oppenheimer vient de te repérer comme surdoué, comme lui. Il va venir vers toi. Alors, il faut se tirer. Alors on s'est tiré. Il travaillait à ce moment-là sur à Berkeley, sur un énorme... Oh, bah, j'ai oublié, un énorme machin.
Frédéric Weismann, vous partagez avec Marcel Hoffus, mais sans, dans des façons complètement différentes, une sorte de critique des stéréotypes. C'est-à-dire que, sans le vouloir, peut-être au départ, vos films, finalement, à chaque fois, luttent contre des idées reçues ou le politiquement correct.
Est-ce que vous... Oui, c'est ça. Oui, oui non, parce que je... C'est ce que je trouve. Je n'aime pas les idées politically correct.
Les idées toutes faites.
Et chaque film, pour moi, c'est un effort de comprendre quelque chose et d'apprendre quelque chose.
Voilà.
J'aime être étudiant. J'ai un cours différent chaque année. Ou chaque fois que je fais un film, je passe au moins un an avec le sujet. C'est mieux qu'un vrai travail, parce que j'aime ça, je suis toujours à l'école.
Marcel Hoffus, alors, ce qui est très formidable dans vos mémoires, c'est qu'on retrouve tout à fait l'esprit de vos films, c'est-à-dire qu'il y a une façon de dire exactement ce que vous pensez des choses. Là aussi, vous n'êtes pas du tout dans le politiquement correct, il y a des pointes que vous lancez contre un certain nombre de personnes, et vos films aussi ont fait de l'effet. Ils ont été même critiqués. Moi, je me rappelle de débats à l'époque du Chagrin de la Pitié, qui était loin d'être un film qui a été accepté, ou Memory of Justice, qui est votre film préféré, sur les procès de Nuremberg et sur, justement, vous vous emportez contre le fait qu'on égalise tout, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie s'est comparée à Auschwitz, etc.
Ben oui, la guerre d'Algérie, on n'a pas, en tant que citoyen français, on n'a pas à en être fier. Hein. Qu'est-ce que disait le général quand il a fait sa tournée des popotes en Algérie? Il y avait, devant tous les journalistes, il est descendu d'avion et il a dit... Et Massu était là, qui a pratiqué la torture, Massu. Massu était là pour l'accueillir, comme plus tard à Baden-Baden. Et le général... est venu vers Massu et il a dit « Alors, Massu, toujours aussi con ?»
Oui, mais vous ne dites pas ce qu'a répondu Massu à ce moment-là.
Ah oui, la chute, c'était lui. Il a dit « Pour vous servir, mon général. »
Ah, ça c'est très bien.
Formidable, non, frère?
Oui, oui, ça c'est très vite.
Alors, justement, vos préférences, là, maintenant, c'est At Berkeley, au même titre que Near Death. Qu'est-ce qui vous avait marqué, Marcel Hoffus?
Ben, c'est dans mon film, Fred est aussi dans mon film, Ain't Misbehaving.
Un promeneur qu'on a vu à Cannes l'an dernier.
Un voyageur, pardon. Un voyageur, oui.
Les promeneurs, c'est vous.
Qui était à Cannes. Ben, ça fait partie, tout ça, du showbiz. There's no business like show business. Tu veux pas chanter avec moi, frère Michel? Like no business, I know. Disappearing. Il n'aime pas quand je chante.
Moi, j'ai assisté dans une lecture à Salt Lake City une fois. Vous la chantez, je ne sais pas. J'ai pensé que c'était 40 minutes, mais c'est peut-être moins. Mais la chanter devant un public.
On était avec Christopher Lash, la culture de Narcisse. Ben, on y est, hein, dans la culture de Narcisse. Bon, le 21e siècle, messieurs, dames, c'est the culture of narcissism.
La culture du narcissisme. Oui, Christopher Lash, ce grand sociologue américain, avait vu très, très juste il y a 40 ans avec son livre. Alors, Frédéric Weismann, justement, vous dites souvent que vos films, pour vous, c'est un peu des fictions. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé dans votre cinéma, c'est qu'il y a un peu un alter ego dans les films de fiction américains, qui est Robert Altman. J'ai l'impression qu'en fait, il a fait avec des personnages que ce soit Nashville, que ce soit Health dans le monde de la santé, que ce soit dans beaucoup de films qu'il a pu réaliser, il a traité de communauté, il a traité un mariage, c'est la famille, etc. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans cet univers altmanien que vous...
Non, moi, je ne sais pas. Je crois qu'il se trouve dans un univers Wisemanesque. Non, je crois que Nashville, par exemple, j'adore Nashville.
Oh, c'est une merveille.
Et comme ça, il a fait un montage plutôt comme un documentaire. C'est une séquence, une autre. Et aussi, il saute des abstractions dans la façon qu'il monte le film. Et c'est la même chose. Je fais le même effort dans mes documentaires. Mais tout le monde a leur façon de travailler. Mais mes films sont de fiction dans le sens que la structure est complètement de fiction, l'ordre des événements, et même les séquences ne sont pas tout à fait. Mais par exemple, dans At Berkeley, les réunions de chancellerie sont après 90 minutes. Dans le film, il peut être 7, 8, 9 minutes. Mais 7, cette 9 minutes, c'est un assemblage, 15 secondes ici, 20 secondes là, 2 minutes plus tard, etc. Et je le montre comme ça passe, comme vous voyez dans le film, mais c'est une illusion parce que ce n'était pas comme ça dans l'actualité. Et dans ce sens, c'est une fiction. Et je ne respecte pas l'ordre. Je peux commencer le film avec un événement qui était le dernier jour de tournage. Et la séquence finale du film peut être quelque chose de premier jour de tournage. Et pour moi, le montage, c'est comme l'écriture. Parce que et c'est l'envers d'un film de fiction. Parce que moi, je fais l'écriture à la fin, dans le montage. Moi, je n'ai pas un écrivain. La limite pour un écrivain, c'est son expérience et son imagination. Pour moi, la limite, c'est mon imagination, mon expérience contre les rushs. Mais avec 205 heures de rush, on a beaucoup de choix.
Marcel Ophuls, cette idée que ces documentaires sont aussi d'une fiction, je ressens devant vos films aussi. C'est-à-dire que, pour reprendre le film le plus célèbre de vous, Le Chagrin et la Pitié, pour moi, les frères Graves, Anthony Hiden, le pharmacien de Clermont-Ferrand, ce sont des personnages. C'est-à-dire vous les traitez comme des personnages. Par le montage, ils deviennent des personnages.
Oui. Madame Simone Veil n'aime pas. Elle devait roupiller un peu. Publicis, quand elle, dans les bons fauteuils de Publicis, quand elle voyait le film.
Il faut dire que vous lui en voulez parce qu'elle a interdit Le Chagrin et la Pitié pendant 10 ans sur les écrans de télévision.
12 ans. Mais Kubrick, The Path of Glory, Les Sentiers de la Gloire, a été interdit pendant 15 ans. Mais la différence entre Kubrick et moi à cette époque, Kubrick qui a cessé le tournage des Sentiers de la Gloire pendant une journée entière quand mon papa est mort. Une journée entière, hein? 15 ans. La différence, c'est que lui, il s'en foutait. Et moi, je ne m'en foutais pas du tout. Hein?
Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant d'ailleurs aussi, ça, c'est vous avez commencé à peu près en même temps. Munich, c'était votre premier film. C'est 67, je crois, 68.
Premier film documentaire.
Documentaire, je parle. Oui. Non, mais on parle avec Frédéric Weisman. C'est 67-68.
Mais il parle aussi, lui, du grand cinéma. Hein?
Absolument. Mais
ça lui arrive.
Son premier film, Titicut Follies, qui est sur un asile. Et à peu près de la même époque, donc vous avez commencé dans le documentaire à peu près de la même époque, et vous avez commencé par des problèmes avec justement la censure. Titicut Follies a été interdit très longtemps.
Oui, film 23 ans.
23 ans. Et puis, Le Chagrin et la Pitié a été interdit d'antenne à la télévision, alors que c'est un film fait pour la télévision par les Allemands, d'ailleurs. C'est les Allemands qui ont produit...
Je suis un peu sponsor moi-même. Comme je suis très procédurier...
Comme votre père. J'ai appris que votre père était très procédurier et très colérique, comme vous, alors. C'est
ça. Oui, moins procédurier que moi. Il détestait les avocats. Moi, j'aurais fait un bon avocat. Mais mon papa ne voulait pas que je le sois.
Vous auriez fait du droit comme Frédéric Wiseman qui a abandonné.
Oui, j'ai détesté.
Il a commencé par des études de droit. Et heureusement, vous avez détesté ça pour faire autre chose.
Oui, mais non. Moi, j'ai détesté l'affaire. J'ai lu les romans pour 3 ans. Je ne suis pas assisté au cours, mais j'ai évité la guerre en Corée comme ça.
Tandis que Marcel était envoyé au Japon, après, dans le Japon occupé, comme soldat.
Oui, mais c'est... Hurry up and wait. C'est une, je peux parler de l'armée américaine un instant.
Dépêche-toi et attends. Oui.
Oui. Toutes les semaines, c'était pareil en Allemagne, et les médecins, avant de nous lâcher en permission, ils nous montraient toujours d'horribles films avec des bites toutes noires. Et puis, au début, on était complètement fascinés par, mon Dieu, la gonorrhée, mon Dieu, le syphilis. Et puis, à la fin, ils disaient toujours, les médecins de l'armée, ils disaient, so, be good. And if you can't be good, be careful.
Soyez bon, et si vous êtes bon, soyez prudent.
Oui, c'est pas tellement la traduction. Soyez, pas vraiment. Et puis c'était aussi.
Il fait pas le travail, Marcel, mais il est impitoyable, c'est
oui,
ça.
Oui, il est impitoyable. Et moi, je trouve
pas se traduire lui-même.
Était très bonne.
La traduction est bonne. Bon. Et puis pourquoi il m'avait envoyé au Japon? Parce que parlait quand même très convenablement l'allemand. Et le français, ils auraient pu m'envoyer en Europe quand même. J'avais énormément envie d'y retourner. Ben non, c'est l'armée américaine. Ils m'ont envoyé au Japon.
Puis vous étiez un peu d'origine allemande, donc c'était l'axe qu'ils refaisaient. Oui.
Ah, je sais pas. C'était déjà un peu la guerre froide. Et ça commençait... Les Juifs... qu'on a envoyé en Allemagne pour faire des interrogatoires, ça commençait déjà à être mal vu.
Peut-être il veut que vous appreniez le japonais. Avec vous avez déjà 2 langues, il veut
3 langues.
Trois langues.
Marcel a 3 langues.
Oui.
Non, je chantais le répertoire d'Alfred. Je chantais le répertoire. J'étais entertainment specialist. Ah. Et je chantais le répertoire de traîner dans les clubs des officiers le soir. Puis je jouais dans une pièce d'Agatha Christie au Ernie Pyle Theatre qui avait résisté au bombardement.
Alors, racontez-moi votre rencontre, parce que vous vous connaissez depuis 45 ans, et je crois que vous vous êtes rencontrés dans un séminaire Flaherty.
Flaherty Seminaire.
Le père du documentaire.
Oui, mais le père était déjà mort. Et c'était toujours les grands académiciens américains. Et moi, Marcel était là pour une semaine, et moi, je suis arrivé simplement pour montrer un film, je crois que c'était... le film que je vais sur le monastère.
Mais il avait déjà fait It Takes Forever et Law and Order.
Law and Order.
Oui.
Et j'ai oublié quel film j'ai montré là-bas. Mais en tout cas... Je suis arrivé et j'ai déjà vu une ou 2 films de Marcel. Et moi, je lui ai dit, pourquoi vous avez resté, Marcel? Parce que les profs vont vous manger après 24 heures. C'est autour de ça que nous sommes devenus des amis. Et puis, il vient me visiter à Cape Cod.
Ça, c'est dans le bouquin. C'est pas dans le film, mais c'est dans le bouquin.
Oui, c'est pour ça que je vous posais la question.
Ouais,
vous racontez votre rencontre dans le Connecticut.
Oui,
Connecticut, où on allait se baigner. Tiens, il y avait quand même une nana qui était bien. Qu'est-ce qu'elle est devenue?
Oui, Anna était là.
Claudia Veil.
Oui, vous êtes venu à Cape Cod, à Orleans.
Oui, oui.
Mais alors parlons de Flaherty, parce que tout de même, vous avez une admiration, je pense, tous les deux pour Flaherty, mais
pas tellement.
Voilà, bah, Flaherty, c'est tout de même, Flaherty, c'est tout de même le contraire de votre méthode, parce qu'il reconstitue.
Il
fait jouer, finalement, il prépare, enfin, il n'y a absolument pas.
Tout est faux.
Il sillait, pour des raisons de lumière, le toit de l'iglo. Enfin, pas, il le sillait
dans
pas
Nanouk.
Lui-même. Pour Nanouk,
oui,
bien sûr.
Il a tous des gens qui étaient bons comédiens.
Mais Nanouk n'avait jamais vu de caméra. Ça, je crois que c'est vrai.
L'homme d'Aran, il recommence une pêche qui n'existait pas depuis 40 ans ou 50 ans.
C'était un grand romantique.
Non, je crois qu'il veut tourner à Hollywood. Et ça, c'est son crat d'entrée.
Vous défendez Flaherty.
Alors, Tabou.
Marcel Dofus, oui.
Moi, ce que je préfère de tout, c'est Tabou.
Mais Tabou n'est pas...
Vous allez dire la même chose, Michel. Tabou n'est pas vraiment un film de Flaherty. C'est un film de Murnau, qui était le metteur en scène préféré de Max Ophüls. Sunrise, Le Dernier Homme, Nosferatu. Mais non. Oh, que Tabou, c'est beau. Non, Michel, c'est pas beau, Tabou.
Oui, mais bon, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bon, pour en revenir, tout même ce qu'il y a, pour moi, je crois, on écarte le scénario qui n'existe pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Le tournage, évidemment, est une phase
rapide.
Importante, mais rapide. Mais vous vous retrouvez tous les deux avec le montage. Le montage, Frédéric Wiseman, qui est pour vous l'étape fondamentale.
Oui, parce qu'on découvre le film dans le montage, et on fait le film dans le montage. On peut avoir les bonnes rushs. Et les tours dans le montage, on peut avoir la race un peu médiocre et peut être un peu mieux à cause d'un bon montage. C'est pour ça que je dis toujours, le montage, c'est l'écriture.
Le montage, c'est le futur. C'est l'écriture.
L'écriture.
Mais Marcel Ophüls, pour vous...
Oui, l'écriture, bien entendu, voyons.
Quel est le rapport, là? Frédéric Wiseman nous parlait de non considérables 40 heures de rush. Quel est pour vous le rapport entre ce que vous tournez et ce que vous gardez? Enfin, ça doit varier suivant les films, évidemment. C'est pas la même chose pour November Days que pour... sans doute que pour Hôtel Terminus Veillée d'Armes.
Et puis, en vieillissant aussi, The Ratio... Les rapports entre ce qui est tourné et ce qui est utilisé au montage devient plus important. Pour Le Chagrin et la Pitié, c'était du 15 à 1. C'est pas beaucoup.
Oui, pour Berkeley, c'était une 60.
Vous gardez 1 pour 60, oui.
Oui.
1 pour 60. Ça, j'ai jamais fait. Mais, oui, ça peut aller jusqu'à 1,30. November Days. Oh ben, November Face was fun to make. J'avais un très bon producteur, Paul Heyman, que j'aime beaucoup, que Fred aime beaucoup aussi, Head of Documentaries at BBC, et la terrible Madame Ziegler. Ça s'est passé dans le fun, November Days. C'est ma monteuse habituelle, y compris pour Le Dernier, Sophie Brunet. Bon, et puis je sais pas combien ça fait, du 25 à 1, j'imagine, à peu près.
Et comment vous organisez alors votre matière au montage? Qu'est-ce que vous privilégiez?
Il faut d'abord faire tomber tout ce qu'on trouve pas bon, ou moins bon, ou pas assez bon. Ça, c'est le premier boulot. Je ne sais pas vraiment encore, ça devrait se faire assez vite. Peut-être pas chez Fred, il faudra lui demander. Ça disparaît dans le chutier, on the cutting room floor.
Sur le plancher de la salle de montage.
Non, sur le plancher de la salle de montage.
Ça va, la traduction?
Oh, ça va très bien. Ça va très bien.
très bien.
Oui, parfait, ça, 20 sur 20. 20 sur 20. Et puis, le premier travail des monteurs et des assistants monteurs, c'est de... Il y a des relevés de textes qu'on m'envoie chez moi. Et alors, ça s'est développé peu à peu. À partir de là, au crayon, ils mettent à partir de là, zoom arrière, à partir de là, zoom avant, plan de deux, plan général, gros plan, horreur des gros plans, comme mon papa. Et puis, je commence à travailler là-dessus chez moi. Et ensuite, le vrai montage commence. Mon Dieu, sur Terminus. Oh, que cela a été un film malheureux. Par la faute de François Mitterrand.
Qui reculait le procès.
Qui ne voulait pas que Barbie... Et dans un premier temps, il était d'accord avec Badinter pour faire extrader Barbie, enfin pour le faire kidnapper. En Bolivie, où tout le monde savait qui était Klaus Hallmann, tous les Français savaient qui était Klaus Hallmann. Et puis, il a quand même, à cause de Bousquet principalement, il a quand même préféré que Barbie, qui était coriace, meure en prison. Ça m'a coûté quand même un an de ma vie, ça.
Il a essayé de reculer le procès au maximum.
Au maximum, oui. Bon, c'est comme ça. Donc, oui. Puis Barbie n'est pas... C'est un immense criminel nazi, bien entendu, criminel contre l'humanité. Mais quand même moins intéressant qu'Albert Speer dans Memory of Justice. Tu as vu Memory of Justice,
oui.
Fred?
Oui.
Mais Speer était formidablement intéressant.
Non, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, je l'ai vu l'année dernière quand c'était présenté ici à Paris.
Kubrick avait un projet sur Speer qu'il a abandonné.
Je sais.
Oui.
On me l'avait proposé avant. Et j'avais dit, mais prenez Kubrick, voyons, puisque vous pensez que moi qui fais des documentaires, j'ai dit ça à Charlie Blue Dawn, le chef de la Paramount. À 11h du soir au Commodore Hotel. Il était avec tous ses yes men. Et il m'a dit, vous qui êtes moderne. Alors, j'ai pas pu résister pour lui dire, monsieur Bloudon, vous êtes peut-être plus moderne comme moi. Parce que Albert Speer, c'est les mémoires d'Albert Speer. Il faut voir les gares bombardées. Quand avec Hitler, il est dans le train, il faut voir les gares bombardées. Devant, il faut voir Paris, et il faut voir Paris, il faut voir Berlin en ruine, il faut tout ça. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous ne proposez pas à Kubrick? Et vous, Michel, vous venez de dire que Stanley Kubrick a refusé. Alors,
oui, étant juif, il était gêné, sans doute, de prendre ce sujet à nouveau. Mais enfin, Frédéric Weissmann, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir... Est-ce que vous avez senti l'importance qu'allait avoir ce problème du racisme et des Noirs, parce qu'il apparaît de façon très forte dans des séquences de At Berkeley, où on voit les Noirs qui finalement disent ça a changé, bien sûr, l'Amérique a beaucoup changé, mais néanmoins, quand on est Noir et qu'on est dans une assemblée, on ressent qu'on est Noir.
Oui, c'est ça, mais les gens qui pensent que le racisme n'existe plus sont naïfs. Ça a beaucoup changé, c'est beaucoup amélioré, mais ça existe toujours. Et comme l'antisémitisme existe toujours, même si c'est beaucoup amélioré en Amérique. Quand j'étais jeune en Amérique, l'antisémitisme, c'est évident et très fort.
Vous en avez souffert, en faisant vos études.
Oui, mais quelqu'un a utilisé un mot que je déteste, mais ça exprime un peu qu'est-ce qui se passe avec... Il parle de micro-racisme, micro-racisme. Et ça veut dire des choses pas si grandes qu'autrefois, mais qui touchent la sensibilité des Noirs. Par exemple, qu'un noir doit parler pour tous les noirs, où les noirs sont exclus d'un groupe. Mais bien sûr que ça existe, et cette séquence dans le film est très importante.
Je peux revenir un instant sur le Flaherty Seminar. Il y avait deux noirs qui étaient montés de New York, qui avaient fait un film sur Elijah Muhammad. Oui. Et le soir, ils avaient, pour le dessert, il y avait du watermelon, de la pastèque, pour qu'il pèse. Ils étaient furieux, les deux mecs. Le lendemain, ils sont repartis, mais ils étaient furieux, parce que le watermelon, bien sûr, c'est for the Negroes, pour les Blacks. Bon, anecdote.
Alors, pour terminer, peut-être, je sais que Marcel Ophuls, à juste titre, a une grande passion pour l'Amérique. C'est, en France, c'est pas tellement courant. Enfin, il y a une sorte d'anti-américanisme. Et je trouve que At Berkeley exprime merveilleusement pour moi le cœur de l'Amérique. Et aussi, une réflexion que m'avait fait Joseph Mankiewicz en parlant des personnages des films de fiction. Il disait, aujourd'hui, de plus en plus, dans les films, les gens ont 50 mots de vocabulaire, ils grognent, etc. Alors qu'il existe beaucoup de gens intelligents, brillants, qu'on rencontre dans des soirées.
Dont lui,
qu'on rencontre dans des soirées et qu'on ne voit jamais à l'écran, qui ne sont pas des personnages, on ne veut que du lumpen sur l'écran. Et je trouve que quand on voit ce film, ce qui est passionnant dans At Berkeley, c'est le nombre de gens intelligents, de gens passionnés, de gens tolérants, qui parlent de tous les problèmes.
Et qui savent parler.
Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, Marcel,
oui,
en voyant le film?
Il revient, Fred, tu reviens à la parole, à l'audiovisuel. On est des mecs de l'audiovisuel. Et la chorégraphie, c'est bien joli, mais enfin, c'est pas vraiment notre boulot à nous.
Oh, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut suivre le sujet. Je crois que pour la danse, la chorégraphie est très importante.
Oui, il ne faut pas parler de l'odieux visuel. Le visuel peut être beau aussi.
Moi, j'ai des films qui sont très liés aux paroles et des autres films qui sont très liés au mouvement. Boxing Gym, par exemple, c'est un film de danse, comme la danse. Moi, actuellement, je préfère les sujets où il y a beaucoup de mouvement, parce que le cinéma, on trouve le cinéma dans le mouvement.
Et le corps dans vos films est très important.
Oui.
Mais pour terminer sur At Berkeley, qu'est-ce que vous voyez dans At Berkeley qui exprime vraiment pour vous le cœur de l'Amérique, de ce qui fait la valeur de l'Amérique pour vous, Marcel Ophuls?
Tout, du début jusqu'à la fin.
Tout, c'est-à-dire quelques exemples.
Tous les rapports entre les étudiants et leurs professeurs, tous. Le fait que Berkeley a du mal devant les salles républicains, the Tea Party people, c'est these crazy people, ces gens complètement fous. Oh, Dieu merci qu'on a encore Obama pour un deuxième mandat. Hein? Non?
Oh oui, absolument.
Mais Frédéric Weissmann, il y a aussi tout de même ce qui est intéressant, c'est de voir tout de même l'opposition entre des enseignants d'aujourd'hui qui ont été des contestataires il y a 40 ans la nature de la contestation des étudiants aujourd'hui qui réclament. Il dit, nous demandions deux ou trois choses. Aujourd'hui, ils demandent tout, et c'est totalement irréaliste. Il y a tout de même un conflit de génération.
Oui, c'est un conflit de génération, et aussi les manifestants qui sont dans le film, c'est un peu naïf, parce que le demande principal, c'était que la tuition doit être gratuite. Mais ça, c'est la question. On ne peut pas avoir la tuition gratuite parce que l'État ne donne assez d'argent à l'université.
Voilà.
Et comme ça, le demande est complètement naïve. Et toute l'administration de Berkeley est d'accord que s'il peut donner la tuition gratuite, très bien.
Tuition, c'est l'inscription.
Ah, oui.
C'est l'inscription.
Tuition, c'est l'inscription. Ah,
Danny, qui s'appelait encore à l'époque Danny le Rouge,
Danny Cohn-Bendit,
qui s'appelait pas encore Danny le Vert, quand en 68, quand il menait la grève à laquelle j'ai beaucoup participé quand même à l'ORTF, quand il parlait d'université, des études, des rapports entre les profs et les étudiants dans le mouvement du 22 mars. Mais il ne parlait que des campus américains, voyons, le révolutionnaire. Il n'y avait que les campus américains qui comptaient pour lui. Et je pense, il faudrait lui demander, je pense que ça n'a pas changé.
Donc, je rappelle le titre des mémoires de Marcel Ophuls, passionnant et vraiment sans concession et très, très libre, comme vous l'avez entendu aujourd'hui. Donc, Mémoire d'un fils à papa chez Kalman Levy. Je recommande évidemment At Berkeley, le film, le très beau film de Frédéric Wiseman, une fois de plus, et son 40e film d'ailleurs. On attend National Gallery, sur la National Gallery de Londres, que vous avez, je pense, vous êtes en train de terminer. Je signale aussi que deux des films du papa de Marcel Ophuls, Max Ophuls, ressortent restaurés chez Gaumont, Madame 2 et Le Plaisir, qui sont d'ailleurs deux de vos favoris, avec Lettre d'une inconnue, qui, oui, lui, ressort en salle grâce à Carlotta. Je signale aussi que la semaine prochaine, je recevrai Volker Schlöndorff pour son dernier film, et que dans France Culture Papier, on peut lire, c'est une première, l'intégralité de cette émission dans le dernier numéro de France Culture Papier, donc Diplomatie de Volker Schlöndorff. Et dans quelques instants, ce sera le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, eh bien, il est très simple, c'est que tous les auditeurs partent pour Toulouse, y passer un an, et participer donc au 50e anniversaire de la Cinémathèque de Toulouse. Et pour en parler, j'ai demandé à Natacha Laurence, à la déléguée générale, qui fait un travail formidable là-bas, de nous parler donc de ces festivités, puisque cette Cinémathèque, faut pas l'oublier, est la troisième collection en France, avec la Cinémathèque française et les archives du film, au point de vue du nombre de copies et la programmation tout à fait formidable qui augmente régulièrement, puisque je crois que vous aviez 82 000 spectateurs en 2012 et 47 000 en 2007, c'est-à-dire en 5 ans, vous avez presque, pas doublé, mais presque doublé. Donc Natacha Laurent, racontez-nous un petit peu cette cinémathèque et cette programmation que vous avez déjà établie. On connaît tout le programme pour l'année 2014.
L'idée, c'était de consacrer déjà la totalité de l'année 14 à ce 50e anniversaire, parce que notre histoire est tellement riche et encore peu connue. On a décidé de consacrer toute l'année à cet anniversaire, aux 50 ans, pour mêler finalement ce qui fait l'identité de la Cinémathèque de Toulouse, ce qui fait la spécificité de ses collections, ce qui fait aussi la particularité, la singularité de Raymond Borde, de son parcours, d'abord de critique, puis de fondateur de Cinémathèque et d'éminent conservateur. Donc toute l'année 14 a été tissée comme ça. Donc il y a des clins d'œil absolument évidents aux passions de Raymond Borde, le film noir, le surréalisme, le mélodrame par exemple, et puis d'autres pistes qui renvoient, on va dire, à des grands fonds de la Cinémathèque de Toulouse, à des affections aussi d'aujourd'hui, à des choix aussi de l'équipe d'aujourd'hui, pour montrer que cette Cinémathèque, comme le disait d'ailleurs Raymond Borde, une affaire de Cinémathèque, ce n'est pas une affaire de nostalgie. C'est chercher dans les films ce qui nous émeut toujours aujourd'hui.
Alors qui était ce Raymond Borde qui a écrit un livre qui était L'Extricable chez Eric Losfeld au Terrain Vague, qui était un livre inspiré par le surréalisme de révolte absolue sur son époque, contre son époque, mais par ailleurs un critique de cinéma et un historien de cinéma,
oui,
important.
Oui, ça, on a un peu oublié cette partie-là, parce qu'en fait c'est une partie qui a quand même très largement précédé la fondation de la Cinémathèque de Toulouse, donc c'est un parcours très intéressant, parce que c'est un parcours qui passe par la cinéphilie, par l'écriture en tant que critique, par l'écriture en tant qu'historien, puisque donc donc il était membre du comité de rédaction de Positif pendant de très longues années. Il a été également au Temps Moderne, il a été aussi à Midi Minuit Fantastique, et il écrivait sur le cinéma contemporain. En même temps, il a écrit des livres d'histoire du cinéma qui font encore référence. Panorama du film noir, bien entendu, mais sur les burlesques également, qui était une autre passion de Raymond Bord. Il a écrit également sur le néo-réalisme. Et la fondation de la Cinémathèque, le 12 février 1964, marque un moment important dans sa vie parce que c'est l'aboutissement de finalement plus de 10 ans de trouvailles, de recherches pas encore rigoureuses, de copies dans le Sud-Ouest et au-delà, pour
chez
constituer
les forains,
chez les forains,
les
chez les casseurs. Il était Raymond Bord était quelqu'un de très terrien, de très concret et qui était très simple dans ses relations avec les gens et qui avait une relation excellente avec tous ces forains de la région au sens large. Et c'est comme ça qu'il a trouvé des choses absolument formidables et totalement inédites. Et la fondation en 64, c'est l'aboutissement de ces 10 premières années dans l'ombre finalement, sans structure. À partir de 64 commence donc l'histoire, on va dire institutionnelle, même si la Cinémathèque reste toujours une association loi 1901.
Alors en 1964, donc il fonde cette Cinémathèque, et il faut dire aussi qu'il tout de suite il participe à la Fédération internationale des archives du film, et il est le seul représentant pour la France, puisque à l'époque, on parlera dans cette émission plus tard, dans plusieurs semaines, de Henri Langlois, puisque la Cinémathèque va lui faire une exposition. Mais Langlois était en brouille totale avec tous ses confrères des Fédérations internationales des archives du film, et Bord donc s'est inscrit, il était un des 35 membres, la Cinémathèque de Toulouse faisait représenter la France.
Voilà, ça c'est une histoire, je crois que Bord avait beaucoup d'intuition, c'était quand même quelqu'un, c'était un visionnaire. Et il a eu des intuitions formidables. Celle de la Fédération internationale des archives du film est l'une des plus belles, parce que comprendre en 64-65 que l'avenir de la Cinémathèque de Toulouse, toute jeune cinémathèque, se situait à un niveau international, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que ce choix de l'international est d'autant plus simple pour lui qu'effectivement, Henri Langlois a quitté la FIAF quelques années plus tôt et que Raymond Bord est parrainé par deux très grandes cinémathèques, par deux très grands conservateurs à l'époque, Jacques Ledoux, conservateur de la Cinémathèque royale de Belgique, qui est l'une des plus belles collections au monde, et par Freddy Buach, directeur de la Cinémathèque de Lausanne. Donc c'est une entrée parrainée par ces deux figures, dont il reste d'ailleurs toujours, il est resté toujours très proche de ces deux hommes. Et puis ensuite la rencontre avec Moscou et la grande histoire de la collection soviétique de la Cinémathèque de Toulouse, avec cette histoire improbable entre la petite Cinémathèque de Toulouse, jeune Cinémathèque, et l'immense Gosfilm au fond, l'une des plus belles archives au monde.
D'ailleurs, à la rentrée, vous allez faire un cycle de cinéma soviétique, les poètes, en particulier Alexandre Dovzhenko.
Voilà, les poètes du cinéma soviétique. Donc, on a choisi les trois qui s'imposent absolument, c'est-à-dire Dovzhenko, Parajanov et Tarkovsky, qui représentent aussi à eux seuls l'Union soviétique, dans ce qu'elle avait justement de multiculturel. Ça aussi, c'est très important. Et en même temps, cette poésie qui n'est pas toujours ce que l'on montre du cinéma soviétique, puisqu'on s'accroche souvent à la partie politique et idéologique. On a voulu montrer aussi que l'Union soviétique et cette culture, c'était aussi une très, très grande poésie.
Alors, tous les ans, vous organisez un événement qui est très remarqué, c'est Zoom arrière. C'est la 8e édition cette année et donc ce sera un spécial 50 ans, c'est-à-dire...
Voilà, spécial 50 ans.
C'est quelle date?
C'est du 4 au 12 avril.
Parce que certains de nos auditeurs vont rester peut-être 2-3 mois seulement à Toulouse.
Ils peuvent en profiter. Voilà, et puis pour en même temps aller voir l'exposition du cinéma plein les yeux. C'est entre le 4 et le 12 avril 2014, spécial 50 ans. On a tourné autour, on a joué avec le chiffre évidemment 1964 et 50, ce qui nous a permis à la fois de mettre en relation les deux contextes. Qu'est-ce que c'était qu'être une cinémathèque en 1964 et en 2014? Donc, il y a un petit clin d'œil à Cannes 1964 pour montrer qu'un festival de cinéma d'aujourd'hui, le plus grand festival de cinéma d'aujourd'hui, participe à la construction du patrimoine de demain en faisant émerger des œuvres, en les sélectionnant et en les montrant. Et ça, c'est très important.
Et de plus en plus en montrant des films du patrimoine.
En plus, donc aujourd'hui, les choses ont changé, mais à l'époque, c'était un tout petit peu différent. On a choisi également autour d'un film majeur de 64 qui est sorti dans les derniers jours de 63, Le Mépris, de proposer une lecture patrimoniale. Ça va être un exercice de programmation, j'espère, original. C'est montrer comment, autour de ce film, on construit, et lui-même construit, une histoire du cinéma, et comment ce film, bien sûr, ça on le sait, s'inscrit comme un moment absolument essentiel de la prise de conscience par le cinéma, de sa fragilité, de son histoire, et donc de ce lent processus de patrimonialisation. On invite une autre très grande archive de cinéma étrangère, qui est le Filmmuseum de Vienne, qui a été fondé en mars 1964 par Peter Kubelka, qui est une cinémathèque très proche de la nôtre, parce qu'elle a des choix très différents des autres, donc une identité forte. Et nous allons donc faire un échange, si je puis dire, avec le directeur du Filmmuseum, Alex Horvat, qui viendra avec une carte blanche. Et moi, j'irai à Vienne au mois de mars. Et enfin, parce qu'une cinémathèque, nous sommes persuadés qu'une cinémathèque doit faire retrouver des figures oubliées, nous allons proposer la première grande rétrospective d'une actrice magnifique du muet qui s'appelle Léatrice Joy, qui est étonnante de modernité. Les films existent, mais n'ont jamais été rassemblés pour montrer toute la dimension moderne de cette actrice extraordinaire, qui a été une grande actrice de Griffith, mais pas que.
Ça, c'est du 4 au 12 avril. Et alors, votre marraine, Isabelle Huppert, qui a droit à une rétrospective, il faut dire qu'Isabelle Huppert a été longtemps liée avec Daniel Toscan-Duplantier, qui a été président de la Cinémathèque. Aujourd'hui, c'est Martine Auffroy, qui elle, a travaillé aussi beaucoup à la Gaumont, qui est la présidente de votre Cinémathèque. Donc, Isabelle Huppert a droit, elle aussi, à une rétrospective.
Ben, elle a accepté d'être la marraine des 50 ans, et ça s'imposait. Isabelle était déjà venue plusieurs fois. On n'avait jamais fait de grande rétrospective en son honneur, donc on a choisi ensemble avec elle 20 films magnifiques de sa filmographie.
Merci beaucoup Natacha Laurent. Donc je rappelle, année festive à Toulouse pour les 50 ans de la Cinémathèque de Toulouse. C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon à la prise de son Philippe Palares. Elle a été réalisée par Laetitia Coya et préparée par Sylvia Favre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er mars 2014. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».
Douce maison, jolis chevaux, basse campagne, terrain enclos, notre territoire commun. Non, ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure divin. Rose et brumeuse sur le haut, vieille fumée, et nous avons quatre saisons à partager. Ce n'est pas demain, la fin des arbres, la fin de l'herbe, la fin du murmure des champs. Non, ce n'est pas demain, la fin du murmure. efface comme un jardin à la surface qui refleurit chaque matin. Non, ce n'est pas demain la fin des arbres.